Donc, bienvenue à cette conférence qui est organisée par la FJP. On commence à l'heure parce que l'idée, c'est qu'on puisse avoir terminé à 12h30. Je vais vous dire juste quelques mots sur la FJP. Je suis Charles de Carvenoël, je suis président de Dorel et également en charge de la section puriculture de la FJP, puisque dans FJP, il y a un P qui est aussi important que J. Et on a beaucoup de problématiques et de clients communs entre le jouet et la puriculture. Mais donc aujourd'hui, on se parle de puriculture. Et juste quelques mots pour vous rappeler mission et vision de ce qu'est la FJP. On a vraiment vocation à regrouper toute l'industrie qui recouvre et des grandes et des petites sociétés. Il y a une vraie variété de différentes sociétés, avec bien entendu le souhait de faire croître tout le monde. Et puis cette vision d'être au service de l'enfant, ce qui est une très belle mission, mais qui nous donne de la passion et aussi de l'exigence. Et donc dans les différents types de missions qu'on se donne, il y a bien entendu d'être le représentant de l'industrie auprès des gouvernements, enfin, du gouvernement et des pouvoirs publics, avec un vrai rôle de lobbying sur toutes nos préoccupations. Et puis de créer l'environnement le plus favorable dans cette instance qui est très réglementée et de pouvoir trouver un espace qui permette aux marques de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment la mission qu'on a. Et je vais donc, dans ce cadre-là, on a décidé avec l'ensemble du comité directeur d'avoir cette série de conférences. Et donc on va parler là tout de suite avec le soutien de Franck qui est ici sur scène, de l'impact des nouvelles technologies sur le commerce et plus particulièrement sur la puriculture. Voilà, donc Franck, je te passe la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, je vais mettre en place mes... Bonjour à tous. Je vais mettre juste en place mes slides. Voilà. Voilà. Alors. Est-ce qu'il est en plein écran ? Oui. Alors c'est un sujet, vous allez voir, sur lequel il y a à la fois beaucoup d'actualités permanentes et beaucoup d'interactions avec tout ce qui se passe sur le commerce. Donc on va parler du commerce, on va parler de la puriculture, on va parler des bouleversements du digital, et on va parler un petit peu de toutes les interactions entre tout ça. Ah, alors. Alors, je ne sais pas pourquoi. La télécommande qui marchait ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Merci. Ouais. Non, ça marche pas. Ouais, il faut que vous passiez en plein écran. Voilà. Alors, est-ce que là, ça marche ? Ouais, là, c'est bon. Voilà. Désolé pour les problèmes techniques. Alors, première chose, c'est la vie des clients dans le commerce a bien changé. Et on va partir du commerce en général et vous donner quelques indications sur ce qui change. Le changement majeur. Alors là, je prends des chiffres de Forrester aux États-Unis. C'est que les ventes totales aux États-Unis depuis 2017, c'est 58% de l'influence du digital sur les ventes totales. Donc quand vous prenez une base 100 sur l'ensemble du commerce, 58% qui sont influencés par le digital. Ce chiffre-là, il est très spectaculaire, parce qu'il est même encore plus spectaculaire que le e-commerce, qui est la partie des ventes réalisées en digital. Et donc la partie des ventes réalisées en digital, le chiffre en France, il est entre 8 et 9%, c'est le chiffre officiel de la FEVAD. Aux États-Unis, suivant les études, vous êtes entre globalement 9 et 11% aujourd'hui de l'ensemble du commerce qui est réalisé en e-commerce. Donc vous voyez l'écart, en fait, ça veut dire que le digital est avant tout un outil d'influence. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de e-commerce, on va reparler d'ailleurs de cette partie-là, particulièrement sur la puériculture. Deuxième chose qui change dans la vie des clients, c'est que la distribution n'est plus un point de passage obligé. Et vous avez notamment les consommateurs qui font ce qu'on pourrait appeler du C2C, c'est-à-dire des ventes du consommateur vers les consommateurs. Et en fait, j'ai pris l'exemple du Bon Coin et j'ai tapé sur le moteur de recherche IKEA. Et en fait, quand vous allez sur le Bon Coin, là, je l'ai fait début juillet, en fait, il y avait un peu plus de 128 000 annonces. Vous imaginez ce que ça représente, c'est des particuliers. Alors là, c'est un peu biaisé parce que je l'ai fait sur la France entière. Il est évident que si je cherche une bibliothèque chez IKEA, je ne vais pas aller l'acheter à Bordeaux si je suis parisien, quoi, en fait. Donc c'est surreprésenté. Mais peu importe, ça donne l'indication. Et vous vous mettez à la place d'une enseigne comme IKEA, vous imaginez en volume ce que ça peut représenter, en volume et en valeur. Déjà, vous avez 128 000 articles qui sont vendus, et donc qui échappent à IKEA. Et vous avez en plus en valeur, c'est absolument énorme, parce qu'en fait, même si évidemment la valeur elle est dégradée parce que c'est des produits d'occasion, bah ça représente une masse énorme. Et évidemment, les enseignes, en l'occurrence IKEA, réagissent par rapport à ça. Donc ça, c'est un gros changement. Et évidemment, sur le marché de la puériculture, on va en reparler, mais ça a aussi une incidence, parce qu'il y a de la vente directe de consommateur à consommateur. Sur Google, moi, j'ai visité quelques magasins, là, justement, pour préparer cette conférence. Et vous voyez, je tape sur le moteur de recherche de Google, magasin Aubert Paris, par exemple. J'ai ce magasin-là qui arrive, enfin, etc. Je regarde si c'est ouvert maintenant. Et quand vous faites sur la recherche magasin ouvert maintenant ou ouvert maintenant, enfin, etc., ça a triplé depuis un an. Et les recherches livraison le même jour ont doublé. Donc, c'est pour vous dire aussi l'indication, l'importance que ça a, en fait, pour préparer ses achats, quoi, en fait, voilà. Et puis, il y a aussi tout ce que postent les clients, avis et photos. Alors, il y a un avis client à gauche, et puis j'ai pris une photo qui est sur le magasin que je suis allé visiter, Aubert Paris Poissonnière. Et vous voyez, c'est un client qui a mis cette photo-là. Alors, l'enseigne n'est strictement pour rien, puisque vous avez la possibilité sur Google de poster vous-même vos photos. En revanche, la responsabilité de chaque enseigne, en fait, de chaque magasin, c'est de poster les meilleures photos possibles. Parce que quand vous avez ça, et si vous n'avez pas contrebalancé, vous n'avez pas mis des belles photos du magasin, et ben en fait, la première fois que vous allez avoir envie, et notamment pour une mère qui prépare ses achats, une jeune mère de famille qui prépare ses achats de puériculture, ben, ça ne vous donne pas envie d'aller en magasin. Donc c'est très important, avant même d'être allé en magasin, ce qui se passe sur le digital. Les clients consultent les avis et ils partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. Je vous donne un chiffre là-dessus, il y a 70% des acheteurs qui consultent souvent les avis clients avant de réaliser leurs achats. Donc c'est quand même un chiffre qui est spectaculaire, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, ce qui se passe aussi de plus en plus, c'est qu'il y a le phénomène des marketplaces. Et les clients, alors on peut acheter entre nous, de consommateur à consommateur, je vous ai pris l'exemple du Bon Coin avec IKEA, mais on peut également aussi être vendeur tiers et acheter, être présent par exemple sur la marketplace de Amazon. Alors ça représente pas loin de, c'est à peu près 40%, 45% du business mondial d'Amazon. C'est 90% du business mondial de Alibaba aujourd'hui, le chinois, c'est marketplace. Et c'est très important parce que vous avez la possibilité d'acheter à n'importe quel vendeur tiers et quasiment dans le monde entier, quoi, en fait. Voilà. Donc il y a cette faculté aussi d'acheter à d'autres consommateurs ou d'autres vendeurs très facilement. Et puis d'acheter à l'étranger et en e-commerce, c'est devenu une réalité. C'est-à-dire que quand on regarde les achats à l'international, c'est 42% des e-acheteurs français qui ont commandé par Internet en 2018 des biens ou des services auprès des vendeurs d'autres pays. Donc c'est plus de 4 sur 10, c'est énorme quand même. Et donc ça, c'est une tendance aussi qu'on voit, qui est encore plus forte, par exemple en Espagne et en Italie, et qui se développe beaucoup, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le e-commerce, pour le coup, est réellement international. Voilà. Alors on sait que de toute façon, Internet n'a pas de frontières, Voilà, maintenant, on le prouve par des chiffres et on le prouve par le comportement des consommateurs. Alors, ils prennent l'habitude de se faire livrer aussi. Et là, il y a un chiffre qui est très spectaculaire. C'est la FEVAT qui a communiqué ça dans ses chiffres clés de 2018. C'est que vous avez aujourd'hui 34% des e-acheteurs en France. Donc ça représente à peu près 34% des deux tiers de la population, en gros, pour donner une idée par rapport à la population totale, mais 34% des e-acheteurs qui sont abonnés à un programme de livraison. Programme de livraison qui peut être le plus souvent Prime avec Amazon. Il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre d'abonnés à Prime en France. Et puis, par exemple, c'est Discount à volonté, mais aussi vous avez la Fnac et Darty qui ont des abonnements, enfin, etc. aujourd'hui. Et ce n'est pas rien de savoir qu'il y a un tiers des e-acheteurs qui sont abonnés à un service de livraison. Donc ça aussi, c'est un changement qui est absolument considérable. Et puis dans les changements aussi, alors on énumère tous les changements qu'il y a dans le comportement des clients, on parle d'abord des clients. Il y a les usages marchands du mobile en magasin. Et en fait, 60% des internautes qui sont équipés d'un téléphone mobile ont déjà utilisé leur mobile en magasin. Donc ça, il suffit de regarder, d'aller dans n'importe quel magasin et on le voit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le prix des produits dans les autres enseignes. Alors, ils regardent aussi sur le site de l'enseigne. C'est-à-dire que quand ils sont en magasin, ils regardent s'il n'y a pas de décalage entre le site marchand de e-commerce et le prix qu'ils voient en magasin. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils prennent une photo du produit pour la partager. Ils regardent les commentaires et les notes sur les produits et les avis clients, enfin, etc. Ils regardent un certain nombre de choses, quoi, en fait. Donc, ils utilisent vraiment leur mobile en magasin. Et ça, c'est un vrai, vrai changement aussi. Et puis, ils consomment autrement, ils achètent d'occasion. Et donc, la réplique d'IKEA par rapport à ce que je vous montrais toujours sur le Bon Coin, bah, c'est qu'il y a un espace maintenant dans les magasins IKEA qui est consacré à la vente des produits d'occasion, de manière à ce que ça ne soit pas un business qui leur échappe totalement à 100%, quoi, en fait. Voilà. Alors, toujours dans ces bouleversements, il y a l'importance de l'expérience client. Et là, j'ai mis une citation de Jeff Bezos, le fondateur et président de Amazon. Et si je vous la traduis, en fait, il dit que ils regardent leurs clients et les invitent en tant que qu'invités, en fait, ils ont un traitement spécial, enfin, etc. Et c'est leur boulot de faire de l'expérience client, la rendre la meilleure possible, quoi, en fait, voilà. Donc, on traduit littéralement. Et donc, c'est vraiment au cœur de ce que fait Amazon. Alors, il y a beaucoup d'exemples, on va en reparler. Et puis, l'expérience client, c'est devenu un vrai enjeu de business. Alors, 64% des Français abandonnent une marque ou une enseigne suite à une mauvaise expérience. Ben, c'est sûr que quand vous avez des délais de livraison qui ne sont pas respectés, quand vous avez un service client qui est difficile à joindre, quand vous avez, voilà, il y a multiples raisons qui peuvent faire une mauvaise expérience client, vous avez tendance, un, à faire de la recommandation négative de l'enseigne ou du magasin en question, et puis deux, vous avez tendance aussi, surtout, à ne pas renouveler votre achat, quoi, en fait, voilà. Donc ça, c'est devenu aussi un vrai moyen de sanction. Et pour autant, il n'y a pas de fatalité. Alors là, moi, j'ai repris ça parce qu'on a l'impression, on entend beaucoup de choses, en fait, sur les bouleversements du commerce. On entend notamment que la plus jeune génération, la génération la plus jeune, alors génération Z, c'est celle qui est née après 1995, donc qui a à peu près 23 ans aujourd'hui, enfin, si elle est née en 1995. Et on entend dire que ces gens-là ne vont plus en magasin, que les magasins ne les intéressent plus, enfin, etc. Bon. Il y a une étude mondiale qui a été faite par IBM, et sur cette tranche de la population, il y a 98% de la génération Z, donc la génération en question, qui disent qu'ils veulent toujours acheter en magasin, quoi, en fait, voilà. Alors après, ils n'ont pas forcément le même ordre de priorité, ça dépend des achats qu'ils vont réaliser, ça dépend des enseignes qu'ils fréquentent, ça dépend de leur pouvoir d'achat, ça dépend de leur situation géographique, ça dépend de leur situation socio-démographique, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, c'est un point clé. Il n'y a pas de fatalité, le magasin il n'est pas abandonné par telle ou telle génération. Voilà. Alors, je vous fais un résumé de tout ça, de tout ce qui impacte aujourd'hui le commerce, alors, qui impacte tout le commerce de puériculture. Alors, c'est à la fois les fabricants, les marques qui sont présents sur le salon, et puis les commerçants enseignent. Et en fait, vous avez 5 grands changements. Alors, le digital et notamment l'influence du digital. Le mobile, le e-commerce, c'est-à-dire une partie du gâteau qui part sur le e-commerce, on va en reparler. Tout ce qui est recherche d'informations, de contenu, d'avis clients, et puis toutes les nouvelles formes de consommation, notamment la consommation directe de consommateur à consommateur sur des produits d'occasion. Ben, quand vous mettez l'impact global de ces 5 points qui sont évidemment interdépendants, ben, c'est des bouleversements qui sont réellement profonds. Alors, deuxième question, et c'est le thème de la conférence, c'est comment ça va impacter le commerce de puériculture. Sachant que le commerce de puériculture, il est structurellement impacté par l'arrivée d'un enfant. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de commerce de puériculture s'il n'y a pas, d'où l'importance de la courbe de natalité, des naissances. Et donc, c'est quelque chose qui est structurel. En fait, si on regarde, et là, j'ai pris les dernières études qui ont été réalisées sur le baromètre Institut des mamans et puis la FJP. Et si on regarde, en fait, pour l'avenue d'un enfant, les mères dépensent en moyenne 1242 euros en produits de puériculture. Donc, c'est des dépenses qui sont considérables. Si on regarde la consommation en France aujourd'hui, c'est un vrai poste de dépense, quoi, en fait. Et vous avez 50% des mères qui dépensent plus de 1000 euros, quoi, en fait. Donc, voilà. Alors, on voit les plus gros postes de dépenses. Et puis, pour la venue, c'est assez logique, mais c'est la démonstration aussi de ce qu'on a tous en tête, c'est que pour la venue d'un premier enfant, les mères dépensent plus pour les produits de puériculture. On arrive à 1560 euros en moyenne. Là, on est sur une moyenne globale. Et quand on est sur le premier enfant, on est à 1560 euros. Donc, il y a un pic de consommation structurelle quand il y a une dépense. Et en fait, il y a 8 mères sur 10 qui ont déjà acheté des produits de puériculture sur Internet. Et donc, ça a bougé par rapport aux dernières années. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles achètent tout type de produits. Vous voyez, 55% qui ont acheté du textile, c'est pas en valeur, hein, c'est en pénétration, c'est le nombre de mères qui l'ont fait, quoi, en fait. 52% qui ont acheté des produits de grosse puériculture et de petite puériculture. Donc il n'y a pas de barrière, puisqu'il y a une majorité de gens qui vont acheter ça, en fait. Voilà, donc, et puis où elles vont acheter? Les mères se tournent vers des spécialistes bébés. 68% des acheteuses online ont acheté sur un site de GSS, un pure player, ou directement sur le site de la marque, d'où un véritable enjeu pour les spécialistes et pour les enseignes spécialistes et pour les fabricants pour travailler le mieux possible, parce qu'a priori, on va acheter sur des sites de spécialistes. Donc, du coup, là, il y a toute une réflexion à avoir et tout un travail à faire. Alors, j'en ai parlé, évidemment, sur la puériculture, et vous voyez la courbe de natalité, qui est moins bonne depuis 2-3 ans, en fait. Et ça a des conséquences, parce que c'est une conséquence structurelle, c'est-à-dire que le gâteau, c'est l'ensemble des ventes qui peuvent être réalisées sur la puériculture, ben, il baisse de moins 6% en valeur en 2016 et moins 4% en valeur en 2017. Parce que ça ne va pas être compensé par les autres mères. S'il y a moins de naissances, les autres mères ne vont pas forcément acheter plus pour maintenir le niveau du marché. Donc, vous avez moins d'acheteurs, le marché baisse, c'est mécanique. Voilà. Et puis, au-delà de ce marché qui baisse, vous avez en plus le marché qui est concurrencé, on l'a vu par le e-commerce, j'ai mis à gauche, et puis on l'a vu, on en a parlé par l'occasion et la seconde main. Donc sur un gâteau qui est moins gros, vous avez de plus en plus d'acteurs qui viennent, et donc ça explique aussi un certain nombre de difficultés sur ce marché. Et donc le marché, il est très bataillé. Si on essaye de le résumer, vous allez avoir des spécialistes, vous allez avoir des généralistes, vous allez avoir des pure players, qui vont être des pure players spécialistes. Vous allez avoir des pure players généralistes sur lesquels on trouve tout ce qu'on peut trouver. Amazon se définit comme étant le plus grand magasin du monde. Voilà. Et puis, vous allez avoir de l'occasion avec... il y a quelques sites là, il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns, évidemment, en plus. Quoi, en fait. Donc, un marché qui est très, très bataillé. Un marché qui se réduit et un marché qui est de plus en plus bataillé. Sur quel site les mères vont acheter? Alors, là, il n'y a pas de fatalité. Évidemment, elles vont sur un site marchand généraliste parce qu'elles font leurs achats. Et puis, ça compte aussi, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez 34% des acheteurs qui sont abonnés pour avoir la livraison illimitée, bah, évidemment, ça compte. Et donc, elles vont acheter sur un site marchand généraliste. Elles vont acheter sur le site d'un magasin spécialisé bébé. Aubert, autour de bébé, orchestra, enfin, etc. Là, c'est à 46%. Elles vont acheter sur un site spécialisé dans les produits pour bébés. Elles vont acheter sur un site de vente de particuliers à l'occasion. Donc, vous voyez, les achats, en fait, sont assez éclatés. Là, il n'y a pas de fatalité de se dire « Non, c'est Amazon qui va tout rafler. » Ce n'est pas vrai, parce que vous voyez qu'il y a une vraie concurrence qui se fait. Et en même temps, c'est très, très éclaté. Donc, c'est aussi compliqué parce que ce gâteau, il est de plus en plus convoité, bataillé et éclaté, quoi, en fait. Voilà. Après, il y a des produits particuliers. C'est-à-dire que quand on parle de la puériculture en général, il faut regarder produits, catégorie de produits par catégorie de produits. Et si vous prenez, par exemple, le mobilier de la chambre, bah, à un moment donné, le mobilier de la chambre, vous avez envie de venir en magasin pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est pas trop imposant ? Est-ce que c'est les couleurs que j'ai envie pour bébé ? Voilà. Et donc là, vous venez directement en magasin et évidemment, ça s'achète moins sur Internet. Donc il y a aussi certains types de produits qui résistent mieux, quoi, en fait. Voilà. Et alors là, moi, je suis frappé. Je suis pas un spécialiste de la puériculture. Je suis un spécialiste du commerce, observateur attentif du commerce. Mais je suis frappé parce que je me dis, je vois dans les études que ça, on doit aller en magasin pour voir le mobilier, et je vois comment le mobilier est exposé, et je me dis, franchement, ça donne pas trop envie d'acheter, quoi, en fait. Voilà. Donc, du coup, il y a un véritable enjeu de repenser le rôle des magasins, enjeu auquel qui concerne à la fois les enseignes et les magasins, mais aussi les marques qui doivent jouer un rôle là-dedans pour avoir une meilleure expérience client et avoir une meilleure lisibilité de l'offre et donner plus envie, quoi, en fait. Voilà. Voilà, je vous ai pris des exemples. Hein. Il n'y a pas une enseigne que je vise en particulier parce que quand j'ai fait mon tour du marché, je l'ai retrouvé dans plusieurs magasins, ces observations. Donc, voilà. Et on a des produits qui sont des produits techniques qui peuvent coûter cher. Ça, c'est logique. Encore faut-il le justifier aussi qu'il y a un certain montant à dépenser. Mais il faut aussi l'exposer le mieux possible. Parce qu'à chaque fois que ce n'est pas bien exposé, il faut se dire que ça fait le jeu du e-commerce, quoi, en fait. Alors, quelles attentes sur les magasins spécialisés ? Là, j'ai pris une étude baromètre Institut des mamans et FJP. Sur les magasins spécialisés, vous avez 2/3 des maires qui jugent les enseignes spécialistes incontournables pour les achats de petites et grosses puéricultures. Voilà, 73% sur les maires primipares. Pour améliorer leur service, les magasins doivent mettre en avant la disponibilité, le rôle et le conseil des vendeurs. Voilà, donc ça, c'est aussi clé. C'est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire, si je me rends en magasin, je veux aussi avoir un contact direct avec les conseillers. Même si je me suis renseigné, je vous l'ai dit avant, sur Internet, même si j'ai passé du temps, je veux avoir une information précise. Le digital a un grand rôle à jouer pendant, avant et pendant la visite magasin. Voilà. 38% des maires en attente de conseils, 38% qui souhaiteraient plus de vendeurs dans les enseignes. Voilà. Et c'est 50% chez les primipares. Ce n'est pas négligeable, hein, 50% chez les primipares qui disent qu'il n'y a pas assez de vendeurs dans les magasins. Alors ça, on voit sur le commerce, c'est qu'il n'y a jamais assez de vendeurs dans les magasins, en général, quand on les interroge. C'est comme sur le prix, hein, quand vous interrogez les Français, c'est toujours trop cher. Si vous leur dites, est-ce que vous trouvez que les prix pratiqués sont justes ? Ben non, ils vous disent, c'est pas juste, c'est trop cher, quoi, en fait. Là, c'est pareil, il n'y a jamais assez de vendeurs. Mais néanmoins, quand il y en a 50% des primipares qui le disent, c'est aussi significatif. Donc par rapport à ça, on pourrait se dire, si dans le magasin, il y a un rôle clé que doivent jouer les conseillers et les vendeurs, c'est aussi, et pour favoriser leur disponibilité, c'est de pouvoir prendre rendez-vous en magasin. Et en fait, quand je vais sur les sites internet des enseignes, vous voyez, moi j'ai fait ma recherche, prendre rendez-vous en magasin, et puis en fait, on me propose des produits, quoi, en fait, qui n'ont aucun rapport avec ma recherche. Donc ça n'existe pas. Ça existe en fait si je veux faire une liste de naissance en magasin. Alors ça, c'est bien, mais pourquoi pas l'étendre aussi avec, si je veux acheter, je ne sais pas, une poussette et tout le mobilier pour la chambre de bébé, pourquoi je ne peux pas prendre rendez-vous ? Je peux aussi acheter sans faire de liste de naissance, quoi, en fait. Et il faut ouvrir. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ce qu'on fait pour une liste de naissance, on ne peut pas le faire pour un client qui a des demandes particulières, enfin, etc., et qui doit avoir la possibilité de prendre rendez-vous. Voilà. Et ça, on le voit de plus en plus dans la distribution spécialisée dans le commerce. C'est une tendance très forte de pouvoir prendre rendez-vous, parce qu'à un moment donné, quand vous arrivez à 18h30 dans un magasin qui va fermer à 19h, si le vendeur il n'est pas disponible, et ben vous repartez, et vous ne pouvez pas forcément revenir, et vous repartez sans les réponses à vos questions. Si par contre, vous aviez pu prendre rendez-vous à 18h30 et que vous êtes accueilli, et ben là, l'expérience, elle n'est pas du tout la même, quoi, en fait. Voilà. Donc, quand on parlait d'expérience client, ça ne fait pas la même chose. Voilà. Alors, j'ai pris cet exemple. Hein, voilà, je vous montre quelques exemples, hein, pour ça. Voilà. Là, je mets contacter mon magasin, enfin, etc. C'est un magasin bébé neuf en région parisienne. Ah bah, il faut que je remplisse toute la fiche, en fait, pour la prise de contact, enfin, etc. Et je peux le faire que pour une liste de naissance. Voilà. Voilà. Mais alors même sujet hein, pour les autres. Et en plus, il faut le trouver sur le site. Hein. C'est pas si simple. Alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver ces informations-là. Là, vous êtes en plein Paris, bah, vous n'avez pas possibilité de prendre rendez-vous directement en magasin, quoi, en fait. Alors, je reviens sur ce phénomène de l'occasion qui touche 8 mères sur 10. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, quand on leur pose la question « Avez-vous déjà acheté des produits de périculture d'occasion pour votre enfant ?» Vous voyez, on est à 80% des mères. Et sur les primipares, bah, ça atteint 87%. Quoi, en fait, hein. Donc, c'est un vrai sujet aussi. Quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir aussi pour les fabricants, pour les enseignes, de se dire comment on peut aussi valoriser le plus possible les prix, parce que s'il y a une démarche qui va vers l'occasion, c'est aussi pour une démarche de prix. Ça veut dire que quelque part, quand vous êtes sur du neuf qui va coûter plus cher, et ça c'est logique, bah, vous devez valoriser le prix du neuf, la technique, les arguments produits, les avantages produits, ce que moi j'appelle la value for money. Alors c'est un terme anglais, c'est pas pour prendre des termes de jargon, mais ça veut dire quoi la value for money? Ça veut dire est-ce que j'en ai pour mon argent, en fait. Et en fait, moi j'ai vu beaucoup dans ma tournée de magasins, j'ai vu beaucoup de produits où je ne doute pas qu'il y ait des arguments produits, mais si vous n'avez pas le contact direct avec le conseiller, vous avez du mal à voir quels sont ces arguments produits. Et donc ça, c'est très important. Je dis ça pour tous les fabricants, je dis ça pour les enseignes, je dis ça pour les magasins, je dis ça pour les observateurs du marché, enfin, etc. C'est très important de valoriser les produits et les arguments produits qui vont justifier ce prix pour contrer au maximum le marché de l'occasion. Et ce marché, il pèse sur le marché, parce que ça représente, hein, sur le marché de l'occasion, ça représente 36% des achats d'occasion qui sont réalisés. L'ensemble des foyers avec enfants, voilà, de 0 à 35 mois, 36% des produits de puériculture sont achetés d'occasion, quoi, en fait. Donc c'est pas neutre. C'est pas neutre parce que vous avez un marché déjà qui baisse, on l'a dit, de 5-6%, et en plus vous avez 36%. Sur les foyers avec enfants de 0 à 35 mois, où ils vont acheter en occasion. Quoi, en fait. Donc là aussi, il y a un plan de bataille à avoir pour essayer de faire bouger les choses. Alors évidemment, quand on va sur l'occasion, la principale motivation, c'est le prix. Soit j'ai un budget donné et je veux essayer d'avoir le meilleur pour mon budget, soit j'ai un produit que je veux, qui est un produit premium, et que je veux avoir un meilleur prix. Quoi, en fait, voilà. Je me paye du haut de gamme au meilleur prix. Quoi, en fait, voilà. Donc ça, c'est la démarche. Et évidemment, les études confirment cette démarche. Alors, troisième champ de réflexion, troisième chapitre de la réflexion, c'est quelle piste pour optimiser la collaboration marque-enseigne. Alors, là, j'ai résumé, je vais le détailler un tout petit peu. D'abord, considérer que c'est un circuit clé dans le business. Ça veut dire quoi? Sur les enseignes spécialisées puériculture, c'est que l'offre, elle est essentielle et que les grandes marques ont une place obligatoire dans les concepts. Alors ça vous paraît évident? Moi, ça ne me paraît pas si évident que ça quand je vois les magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la visibilité des marques, pour moi, je trouve, n'est pas assez suffisante. Voilà. Je trouve qu'on a intérêt à... Et donc là, il y a une vraie collaboration à mener entre les marques et les enseignes. Deuxième point, une marque référente se doit d'être présente dans les enseignes spécialisées de puériculture. Donc, nécessité de rendre visibles les marques et différenciation avec Internet et l'occasion, ce que je disais tout à l'heure. Troisième point, apporter du contenu aux enseignes. Et là, c'est renforcer avec les marques le contenu qui va être délivré, puisqu'on sait qu'il y a une fréquentation très importante du digital pour aller chercher des sources d'informations. Et donc là, le contenu, il doit être travaillé le plus possible. Et évidemment, là aussi, moi, je pense que ça passe par une collaboration enseigne et marque. Quatrième point, la stratégie marketing de valorisation. Et c'est de l'argumentation en direct face aux clients. Et là, ça passe évidemment par la formation des conseillers, mais ça passe aussi par la facilitation du contact avec les conseillers, exemple par la prise de rendez-vous. Alors, si on regarde sur d'autres secteurs et sur d'autres marchés, la valorisation des marques, parce que ce n'est pas un problème uniquement sur le marché de la puériculture, c'est un problème général dans le commerce aujourd'hui, sur tous ceux qui vendent des marques. Regardez par exemple pour les grands magasins, hein, ça existe depuis 1850 en France, les grands magasins, c'est un sujet historique de la valorisation des marques. C'est-à-dire que c'est les premiers à devoir valoriser les marques, avec des stands de marques. Ça a été conçu comme ça, d'ailleurs, c'est le principe même du grand magasin. Donc le grand magasin est une bonne source d'observation, si ce n'est que la taille n'est pas du tout la même. que des magasins qui vont faire 400, 500, 600 mètres carrés, quoi, en fait. Donc voilà. Donc là, il y a des contraintes de taille pour lier à la puériculture. Mais quand vous prenez une enseigne spécialisée aux États-Unis, qui est spécialiste de l'électrodomestique, qui s'appelle Best Buy. Best Buy, c'est l'équivalent aux États-Unis d'Arty en France. Voilà. C'est le leader mondial de l'électrodomestique. Donc ils vendent tous les produits bruns et blancs, quoi, en fait, et gris, voilà, pour citer ça. Ben voilà des exemples. Quand vous parcourez des magasins de Best Buy, vous avez des stands Amazon, vous avez des stands Keurig, c'est le système de machine à café qui est le système leader aux États-Unis avant même Nespresso. Vous avez des stands Google et vous avez une visibilité de ces marques, en fait. Et en fait, comme la promesse de Best Buy, c'est d'apporter de la technologie et d'apporter le meilleur de la technologie, si vous dites aujourd'hui j'apporte le meilleur de la technologie, je vais prendre l'exemple de la téléphonie mobile, vous avez besoin d'avoir Samsung et Apple. Mais vous avez aussi besoin de le montrer, parce que c'est ce qui va crédibiliser votre promesse, et c'est ce qui va crédibiliser votre positionnement. Donc là, si vous dites, je suis le spécialiste et j'apporte le meilleur de la puériculture, bah vous avez besoin de valoriser aussi les meilleures marques de la puériculture. Voilà, c'est, pour moi, c'est le même principe. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 3 ou 4 ans, la FNAC en France. Vous avez j'ai pris l'exemple à la FNAC Forum des Halles à Paris. Vous avez un stand Sonos, vous avez un stand Hirse hein, sur les casques, vous avez un stand Bose. Après, on peut discuter de la façon dont c'est fait, de la valorisation des marques. Vous avez un stand Google, on peut discuter de plein de choses, vous avez un stand Microsoft, mais en tout cas, c'est clair que ces marques, elles sont visibles. Elles comptent dans leur univers et elles sont visibles. Voilà, toujours, vous avez un stand HP. Donc, vous voyez, ce n'est pas une démarche qui est anecdotique et qui se fait sur une certaine catégorie de produits. C'est une démarche qui est de plus en plus généralisée quand on est dans la distribution spécialisée. Alors, on arrive sur le chapitre des technologies et quelles technologies on doit prendre en compte prioritairement. Alors, là, on se tourne vers les études américaines. Et en fait, quand on demande aux enseignes ce qu'elles disent, bah, il y a toute l'intelligence artificielle qui arrive en tête, la partie machine learning qui sert notamment beaucoup pour améliorer ou enrichir l'expérience client, tout ce qui est recherche avec la voix et digital assistant, en fait, les assistants vocaux, l'optimisation du mobile. Alors évidemment, après, on retrouve la vitesse du mobile, les indexations, le référencement, enfin, etc. Mais ce qui compte, en fait, c'est, on va dire, les trois premiers, AI, machine learning, voix et mobile. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Alors, aux États-Unis, ça va très, très vite. C'est-à-dire que les assistants vocaux, en France, on commence sur le marché. On est à 200 000, 300 000 assistants vocaux qui auraient été vendus sur le marché français. Donc on est vraiment au début de l'histoire. Aux États-Unis, ils ont à peu près 2 à 3 ans d'avance là-dessus. Et en fait, quand vous regardez, vous aviez déjà 7% des foyers américains qui étaient équipés d'assistants vocaux. Donc c'est l'équivalent de Google Home ou de Amazon Echo, en fait, en 2016. Cette année, on est passé, en 2018, on est déjà à 15% des foyers américains qui sont équipés. Donc c'est considérable. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en 2020, on arrivera à 75%. Alors ça paraît énorme. Et on peut se dire, mais ça, est-ce que ce n'est pas des prévisions? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on va arriver vraiment à 3/4 des foyers américains qui vont avoir des assistants vocaux? Oui, parce que, d'abord, c'est extrêmement simple. Et l'usage est en train de se faire. Je ne dis pas que les usages sont finalisés. Mais je dis que c'est assez simple et ça apporte quelque chose. Voilà. Je vais vous donner un exemple sur Android. En permanence, on cherche notre téléphone mobile. Où on l'a mis? Où il est dans la maison? Vous dites, OK Google, trouvez mon téléphone mobile, si c'est un Android. Voulez-vous que je le fasse sonner? C'est ce que me répond le Google Home. Je lui dis, OK, faire sonner. Et il y a la sonnerie qui se met en route automatiquement. Alors ça, j'aurais pu être appelé par quelqu'un d'autre, enfin, etc. Mais c'est pour montrer qu'il y a des usages qui se font, voilà, au-delà même de la météo, de consulter la météo du jour, de faire, voilà. Donc les usages, c'est les gens qui vont les trouver. C'est Google, Amazon et les autres qui vont les proposer. Et puis c'est les gens aussi qui vont s'approprier les choses sur le commerce et sur le reste. Ou plutôt sur le reste et sur le commerce. Alors moi, j'entends parler de voice commerce. Bon, attendons déjà que l'usage des assistants vocaux se fasse complètement, et puis on verra après ce qui va se passer sur le commerce vocal. Voilà. Et pourquoi, en fait, on arrive à un équipement qui est aussi rapide aux États-Unis ? Je vous ai pris le dernier Black Friday, donc c'est la grosse période commerciale qui est en novembre aux États-Unis, donc c'est novembre 2017. On verra ce qui va se passer cette année. Vous aviez en fait une bataille entre Target, Walmart, Amazon, enfin, etc. Amazon qui faisait des promos. Alors, ils font des packs de 3 maintenant sur Echo. On ne voit pas encore ça en France. Ils font des packs de 3. Donc, voilà, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire, j'achète, mais j'achète aussi pour mon frère, mais j'achète aussi pour mon voisin, je lui revends, enfin, etc. Donc, j'achète très facilement avec la promo. Et en fait, quand vous voyez, Target a fait ça, mais Walmart a fait ça aussi. Il y avait quasiment de la gratuité. C'est-à-dire que Walmart faisait. Vous aviez le mini, le Google Home Mini qui était comme Target à $30. Et vous aviez un bon d'achat, si vous l'achetiez chez Walmart, vous aviez un bon d'achat de Walmart, chez Walmart de $30. C'est-à-dire que l'achat il était remboursé quoi, quasiment. Quoi, en fait. Un petit peu comme tout le marché de la téléphonie mobile quand ils ont voulu favoriser l'équipement. Bah, c'est exactement pareil. Donc en fait, à partir du moment où on trouve sur le prix une façon d'équiper avec la promo, les gens très rapidement ils s'équipent rapidement s'ils en trouvent l'utilité, et l'utilité on va dire qu'ils sont en train de la trouver, et après il faudra regarder ce qu'ils font. Alors les usages aujourd'hui de la voix, c'est pour rechercher des produits, voilà, en premier, ça c'est ce qu'ils font. Ensuite c'est ajouter des produits à la shopping list, voilà. Donc il y a ce matin une pub dans la presse quotidienne de énergie en radio, qui a évidemment son appli sur Google Home. Et vous avez la possibilité, quand vous écoutez directement, c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur pub presse, quand vous écoutez un spot radio, de dire « Ok, mettre sur ma liste de courses ». Donc du coup, voilà, additionner, ajouter à la shopping list, ça c'est un point important. Voilà, suivre, alors aussi... avec le numéro de la traçabilité d'une livraison, d'un paquet, enfin, etc. Faire un achat, alors ça c'est encore minoritaire, parce qu'il y a encore des problèmes de confiance sur les paiements, parce qu'il n'y a pas encore l'habitude, enfin, etc. Mais on voit qu'il y a multiples usages qui se développent. Et évidemment, consulter aussi les avis clients. Alors ce que les consommateurs aimeraient, il y a ce qu'ils font et puis il y a ce qu'ils aimeraient. Ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Alors, ce qu'ils aimeraient, c'est des informations sur des offres, des produits CLD ou des promotions. Ce qu'ils aimeraient aussi, c'est des informations et des conseils personnalisés qui leur facilitent la vie. Des informations sur des activités ou des événements à venir. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça donne une idée de ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, ils ne connaissent pas très, très bien encore ces assistants vocaux. Donc, il faut aussi écouter ce qu'ils peuvent attendre. Voilà. Alors là, ce qui est clair, c'est que là aussi, les enseignes et les marques ont intérêt à travailler ensemble pour déjà apprendre ce qui se passe. On voit de plus en plus d'enseignes bon, qui vont sur... Alors moi, je trouve qu'il y a des exemples qui sont réussis, il y a des exemples qui sont vraiment à améliorer pour parler à une enseigne. Voilà. Alors moi, je vais vous donner un exemple là-dessus, puisqu'il est dans l'actualité, c'est Leclerc. Moi, je considère que quand on est aujourd'hui la première enseigne en part de marché alimentaire en France, quand vous allez sur un sujet qui est aussi simple que celui-là, où vous devez pouvoir converser tout de suite avec Leclerc, c'est pas possible de dire « Avez-vous votre compte Leclerc ?» et vous êtes obligé d'ouvrir un compte Leclerc Drive, que vous ne pouvez pas évidemment ouvrir sur la plateforme. Donc ça, c'est juste à un moment donné, si vous voulez être une porte ouverte et un contact de plus sur les clients, il faut aussi réfléchir en ergonomie client pour simplifier la vie des clients. Combien vont dire « Ok, Google, parlez avec Leclerc » et combien vont ouvrir un compte ? Donc déjà, la déperdition, elle va être phénoménale. Et si je veux parler avec Sephora, eh ben aujourd'hui, on ne me demande pas d'ouvrir un compte Sephora. J'ai même la possibilité directement sur Google, sans avoir ouvert de compte Sephora, de réserver, de prendre un rendez-vous en magasin. Voilà. Ça me paraît beaucoup plus ergonomique et facile pour le client. Développement alors, de l'assistant vocal à la maison, le commerce à la maison, le retail at home, parce que les Américains l'appellent comme ça, et puis développement de l'assistant dans la voiture aussi. Et ça, on va le voir de plus en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de voir qu'il y a des problèmes de sécurité, et vous allez voir que la législation, elle va évoluer sur le téléphone en voiture, parce qu'on sait que c'est extrêmement dangereux, enfin, etc., et bien, la probabilité que les assistants se développent Il y a déjà des partenariats entre les constructeurs et Google, par exemple, et très forte, parce qu'à un moment donné, si vous êtes dans une zone de chalandise et que vous cherchez BB9, c'est plus facile de dire « Ok, Google, peux-tu me donner l'adresse de BB9 ?» plutôt que de consulter et de faire de la recherche sur son mobile alors que vous êtes au volant. Quoi, en fait. Donc il y a juste ça qui fait que c'est un usage qui va, à mon avis, forcément se développer. Et puis, dans les nouvelles technologies, il y a aussi, on en parle beaucoup, la réalité virtuelle avec les casques, enfin, etc. Et puis l'importance du mobile aussi pour suivre les livraisons. Alors vous avez la possibilité aujourd'hui, Amazon l'a développé, sur l'appli, de pouvoir suivre. Alors on vous donne un créneau sur lequel ça va être livré. Je rappelle que quand même, en France aujourd'hui, il y a beaucoup de livraisons. On vous dit encore, c'est à 9h-18h. Alors vous savez tout hein, sur le colis, où il a été acheminé, enfin, etc. Mais il sera livré dans la journée, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est juste pas possible quand on a affaire à des actifs, enfin, etc. Si vous allez sur... alors Target a développé ça, mais aux États-Unis, mais Amazon aussi. En fait, à Amazon, vous avez la possibilité de traquer les 10 dernières livraisons avant la vôtre, en fait. Donc vous allez savoir que le livreur qui va arriver, il a 7 livraisons avant d'arriver chez vous. Alors là, vous vous dites, moi, j'ai le temps de descendre en bas pour acheter mon pain, quoi, en fait. Et puis par contre, vous allez savoir qu'il n'a plus qu'une livraison à faire avant d'arriver chez vous, quoi, en fait. Et comme c'est évidemment très géolocalisé et très recentré, ça veut dire qu'il va arriver chez vous dans les 5 minutes. Et là, vous vous dites, j'ai pas le temps de descendre, quoi, en fait. Donc là, vous avez accès à cette information-là qui est de plus en plus précise, quoi, en fait. Et donc le mobile, on va s'en servir de plus en plus pour ça. Alors si on regarde ce qui se passe aussi aux États-Unis, même pour les enseignes françaises, il y a Decathlon qui fait un retour aux États-Unis. Il y a plus de techno et d'expérience, voilà. Donc vous avez en vitrine, par exemple, les avis clients, vous avez aussi la possibilité, vous avez des codes barres, vous avez la possibilité d'accéder aux avis produits directement à partir de la vitrine. Donc c'est vraiment les produits du moment, parce que c'est ceux qui sont en vitrine. Donc ça, on peut se dire aussi, on va le voir en France, en tout cas sur les produits majeurs de la puériculture, il faut qu'on puisse avoir accès quasiment immédiatement à la fiche produit et aux avis clients concernés. Voilà. Et si on prend Decathlon aux États-Unis, on trouve, vous avez des parcours que vous pouvez trouver, et puis vous avez, on vous dit, il y a 2000 produits en magasin, et vous avez 7500 produits online, quoi, en fait. Alors le rapport, il n'est pas très spectaculaire, hein. Il y a des rapports qui sont beaucoup plus spectaculaires que celui-là. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de dire, on va proposer tous les produits dont vous avez besoin. Il y a une partie qui est dans le magasin, forcément le magasin ne peut pas tout avoir, et il y a une extension en ligne, voilà. Donc ça fait partie aussi des choses qui doivent rentrer dans les magasins de puériculture. Et puis, fini les caisses aussi, donc de plus en plus, généralisation de l'encaissement mobile, des iPads, en fait, à différents endroits où vous pouvez avoir, et puis ça libère de l'espace aussi dans le magasin, et puis ça donne de la fluidité aussi. Alors le paiement par mobile, c'est ce que fait par exemple, hein, c'est exactement le même principe de l'application de paiement que vous avez au Bon Marché aujourd'hui, à Paris. Mais s'ils l'a fait, voilà. Bon, après eux, ils l'ont mis déjà dans une centaine de magasins quand ils l'ont lancé. La livraison, alors beaucoup d'actualités sur la livraison, et on voit Whole Foods alors qui est en train de généraliser la livraison en 2 heures avec Prime. Ils ont racheté Whole Foods il y a 1 an et demi, et ici par exemple, vous avez à San Francisco, et puis on vous dit que si vous êtes Amazon Prime. La livraison elle est gratuite en moins de 2 heures. Pourquoi ? Parce que téléporter les produits d'épicerie, c'est pas encore possible, quoi, en fait. Voilà. Donc, mais ça veut dire que ça va changer, quoi, en fait, et qu'il va y avoir encore, on va encore gagner du temps. Et là, c'est une chose qui est déjà en application pour Amazon aux États-Unis, qui s'appelle Instant Pickup. En fait, c'est dans les universités américaines, et vous avez en gros les 100 produits. Donc, il y a une offre qui est très très courte. Hein. Vous avez les 100 produits qui sont les plus utilisés par les étudiants américains. Alors ça va de produits, d'épicerie et de proximité, enfin, etc., comme les canettes de soda, voilà, par exemple, jusqu'à des piles, jusqu'à des clés USB, jusqu'à des choses comme ça. Mais évidemment, il y a un assortiment qui est très court. Et en fait, quand vous commandez, vous êtes dans l'université, il y a 6 universités américaines qui sont équipées aujourd'hui, ils ont un stock de ces 100 produits, ils ont un livreur, enfin, ou ils ont un manutentionnaire, en fait, qui a des casiers, et en fait, dès que vous avez commandé, si vous commandez maintenant, il est midi 18, à midi 20, vous recevez le SMS avec le numéro de casier, vous pouvez retirer votre commande. En fait. Et c'est pour ça qu'ils appellent Instant Pickup. Vous voyez, il n'y a plus que 2 minutes entre le moment où j'ai commandé, alors certes sur un assortiment très très court, sur un choix très limité, et le moment où je peux aller retirer directement mon produit. Pour peu que ma chambre d'étudiant soit à 5 minutes des lockers, bon, bah, en gros, j'y vais immédiatement, et puis quand je suis arrivé, bah, j'ai plus qu'à retirer mon produit. Quoi, en fait, voilà. Et même ceux qui étaient en retard sur la livraison sont offensifs. Vous voyez, donc, par exemple, IKEA, hein, on a été longtemps habitué à IKEA, où il fallait tout emporter, il fallait tout monter. Bon, alors maintenant, vous avez la possibilité de faire monter, mais vous avez aussi la possibilité de faire livrer. Et même le dimanche matin, c'est leur campagne à Paris actuellement. Quoi, en fait. Voilà. Et en plus, la technologie évolue. Alors, Franprix est en train de tester sur une technologie comparable. Walmart et Amazon sont déjà se battent sur ce sujet-là. En fait, vous avez la possibilité, à condition d'avoir une serrure connectée, mais ça ne coûte pas si cher que ça, hein, ça coûte à peu près $250 aux États-Unis, de faire livrer chez vous alors que vous n'êtes pas là. Alors, comment ça se passe, en fait ? Le livreur, il a un code. Avec la serrure connectée, il va pouvoir rentrer. Mais le temps qu'il va avoir, la porte lui est ouverte, mais le temps qu'il va disposer chez vous est à peu près 30 secondes. Donc si lui, il reste un peu plus longtemps, par exemple, parce qu'il se dit « moi, je vais emporter la télé pour voler », quoi, en fait, voilà, s'il a cette idée-là, eh bien, il est prisonnier parce qu'au bout de 30 secondes, ça se referme. Et vous, vous avez, parce qu'il y a des caméras aussi de surveillance, vous avez la possibilité de voir exactement ce que fait le livreur et où il dépose le colis, enfin, etc., sur votre mobile à distance. C'est-à-dire vous êtes en train de travailler, lui, il passe en ce moment à 12h20, au moment où on se parle, enfin, etc., et vous avez la possibilité de visualiser ce qu'il fait. Voilà. Et donc, il rentre et il met directement les produits chez vous. En fait, voilà. Alors, il faut que ça passe dans les mentalités, il faut que ça passe dans la culture, il faut que ça... Voilà. Mais finalement, quand on voit, moi je vois, je suis dans la région parisienne et je vois, je voyais là, au mois de juillet, il y avait plein de colis qui étaient déposés à l'étage. Je me dis, les gens, ils ont intérêt à être honnêtes. Hein. Le livreur, il a intérêt à être honnête. Les gens ont intérêt à être honnêtes, enfin, etc. On ne sait pas comment ça se passe, quoi, en fait. Voilà, donc, et là, finalement, moi, je préfère un système qui est sécurisé, où je suis sûr d'avoir mon produit du bon côté de la porte, plutôt que sur le paillasson. Et je rentrerai ce soir, je le trouverai ou je ne le trouverai pas, quoi, en fait. Voilà, donc vous voyez quelques visuels, hein, du système dont je vous ai parlé, en fait. Et là, la personne, elle est au travail, évidemment, elle regarde le livreur qui a rentré un code, qui a juste déposé le produit, ça lui a ouvert la porte, il a déposé le produit. Évidemment, le code lui permet de rentrer qu'une seule fois, forcément. Il ne peut pas revenir et rester le temps qu'il veut, quoi, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez comment ça fonctionne, en fait. Voilà, et puis on est en train de parler des serrures connectées, mais la maison, elle va être de plus en plus connectée, c'est déjà une réalité, parce que, par exemple, la surveillance de la chambre de bébé, du sommeil de bébé, des activités de bébé, enfin, etc., c'est de plus en plus une réalité. Et là, il y a un sujet qui est sur la maison connectée. Alors d'abord, ça bouleverse les champs de concurrence, parce qu'il y a évidemment beaucoup de... est-ce que Leroy Merlin est un concurrent aujourd'hui des enseignes de puériculture sur ce plan-là ? La réponse est oui. Est-ce que la FNAC est un concurrent des enseignes de puériculture sur ce plan-là ? La réponse est oui, quoi, en fait. Donc ça bouleverse les champs de concurrence. Et puis au-delà de ça, ce qui est important, c'est et Amazon et Best Buy se livrent une grosse bataille aux États-Unis là-dessus, c'est de proposer des solutions globales, en fait. Et donc, par exemple, d'envoyer un conseiller qui va regarder chez vous quel équipement il faut et tout installer, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire, si vous voulez installer vous-même les choses, vous allez prendre l'équipement, mais après, pour connecter les choses et les installer, il n'y a rien de plus simple que le fonctionnement. Je reviens sur l'assistant vocal, qui est une toute petite partie de la maison connectée. Il n'y a rien de plus simple que de l'utiliser. Par contre, pour l'installer, c'est pas si évident. Hein. Il y a intérêt à savoir le faire. Quoi. Ben là, c'est pareil. Et donc là, vous avez des solutions globales qui sont de plus en plus proposées. Donc ça veut dire que là, pour le coup, quand on dit on passe d'une logique de produit à une logique de service et de solution, ben voilà un exemple sur lequel on va être de plus en plus sur une logique de solution et de service. Voilà. Alors si je vais conclure, parce qu'on on arrive au bout là, de la conférence, face à des clients qui sont de plus en plus exigeants, c'est tout un programme, ce que je vous ai raconté là. Donc, qu'est-ce qu'il faut, a priori, si on essaye Il y a un point commun, c'est de devenir ultra spécialiste. Parce que tout le monde est spécialiste de tout. Donc il faut devenir le meilleur spécialiste, l'ultra spécialiste. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par valoriser les marques et les caractéristiques produits, les tests de sécurité, tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui justifie le prix, enfin, etc. Répondre aux avis clients quand c'est nécessaire. Moi, je vois encore beaucoup d'avis clients où il n'y a pas de réponse. Quand il y a des questions, par exemple, sur la sécurité, il n'y a pas de réponse, ça ne donne pas confiance. Faciliter la vie des clients, exemple, pouvoir prendre rendez-vous en magasin. Je vous l'ai dit, mais ça, ça me paraît être une évidence. Développer les services, fournir du contenu sur un marché qui est évidemment très impliquant, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de contenu de la part des, notamment des primipares, donc il faut leur fournir du contenu, il n'y a même pas de débat là-dessus, et puis anticiper sur les nouveaux marchés, par exemple la maison connectée. Voilà. Ce n'est pas simple de faire tout ça en même temps, et pourtant, c'est ce qui permet de lutter et d'être compétitif demain. Voilà. Donc j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Le plus dur, c'est la première question. Vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. Vous pouvez avoir des questions ou des remarques. Bon, bah, je vais vous laisser alors. Eh ben, bon parcours sur le salon. Merci à vous. Et puis à très bientôt.